Richard, qui est donc architecte. Enfin, je ne vais pas raconter ça.
Non, je vais le faire.
Elle va le faire, elle va très bien.
Et elle, je n'ai que des amis autour de cette table.
Voilà, elle est directrice de...
Je suis directrice adjointe de l'Institut français d'architecture, oui. Et je suis architecte, j'ai fait Sciences Po aussi, je peux l'avouer. Hein. Dans cette enceinte, j'ai fait des sciences politiques.
C'est Sciences Po
que l'ENA, oui. Voilà. J'ai pas raté l'ENA, j'ai pas passé.
Et puis, Jana Ravedine, ou Revedin, comment on dit ?
Ravedine, ah, Yana.
Ça fait beau, hein, Ravedine.
On chante.
Ravedine, en italien, ça se dit.
Qui est aussi architecte et j'allais dire citoyenne du monde, parce qu'elle travaille dans un pays, elle enseigne dans un autre, elle réside...
Elle expérimente ailleurs.
Et surtout, elle a créé le Global Award... Donc avec Marie-Hélène. Et donc c'est deux personnes ressources qui connaissent absolument parfaitement bien toutes les alternatives, les innovations architecturales à dimension environnementale un peu partout dans le monde. Donc n'hésitez pas à les bombarder de questions. Moi je voudrais réagir au propos de...
Et on se connaît très bien tous les trois.
Oui.
Voilà, ils se connaissent très bien tous les trois.
Et quand tu auras réagi, je réagirai bien en second.
Oui.
Et j'imagine qu'il y en a...
Voilà, donc moi, je voudrais juste faire...
Non, moi, j'attends.
Je voudrais juste faire deux remarques. La première, c'est... J'allais t'interpeller, monsieur le maire, et ça a été dit tout à l'heure, et tu as répondu très bien, puisque depuis de longues années, je travaille sur cette idée de tirage au sort, et surtout de temps limité et de place tournante dans les mandats. Et malheureusement...
Ça ne marche pas.
Nous avons 1 million d'élus à la louche, hein, 1 million d'élus en France. Et je peux vous dire qu'ils tiennent tous à leur petite délégation ou à leur petite responsabilité. Non, mais ce qui m'a beaucoup plu dans ce que tu racontes, c'est la place que tu accordes à la parole. Parce que la parole n'est pas la langue, et la langue n'est pas le langage. Et donc la parole a cette particularité d'accepter l'hésitation, le murmure, le lapsus, le silence, tout ça c'est de la parole. Je pense évidemment au très beau livre de Georges Gusdorf, mais encore plus à ce livre majeur de Martin Heidegger qui est Un cheminement vers la parole, où il explique très très bien comment la langue est l'habitat de l'être. Et depuis des années, moi je travaille sur la notion d'habiter, et je suis toujours énervé d'entendre des gens dire « habiter le TGV, habiter le tourisme, habiter la montagne, même harasser, habiter une ville, faire habiter les gens, les manières d'habiter, les façons d'habiter, tout ce vocabulaire qui m'horripile, parce que personne ne peut aider l'autre à habiter. Parce que l'autre habite, chacun d'entre nous habite sa langue, fondamentalement. Et il y a un texte très important de Heidegger qui est « Langage technique, langage de tradition ». Je vous le signale parce que c'est un texte très peu connu. Il a deux fils, Martin, et un de ses fils est prof dans une école de formation des maîtres en technique. Et il doit lui dire, j'imagine, un dimanche à table, « T'es gonflé, tu fais des conférences partout, tu n'es jamais venu chez moi ». Alors donc, Martin, Heidegger dit « Je viens... » dans ton école de formation des maîtres, et je te fais une conférence spéciale pour ce public-là. Et il lit la traduction allemande de Norbert Wiener, Cybernétique et Société, qui est parue en anglais et en français en 48, mais en 54 seulement en allemand, et il prend ce texte-là majeur, et il prononce cette conférence où il explique que la culture informatique est dorénavant la nôtre, privilégie une langue binaire, qui est la langue de la simplification. Donc c'est l'être simplifié, et non pas augmenté, d'une part, et que d'autre part, on est en train de dévaloriser, de perdre la langue du désaccord, la langue de ce que tu appelles très justement et très joliment du possible ignoré, c'est-à-dire la langue de l'informulé, de l'incommunicable, de l'innommable, etc., mais qui fait qu'on est ce qu'on est, et que ça n'a pas de prix. C'est qu'il montre bien dans ce texte essentiel que nous vivons déjà tous dans un bilinguisme, la langue de tradition et la langue de la technique. Et on nous fait croire à nous que la langue de la technique, c'est une langue de tradition améliorée. Et qu'en fait, on serait encore tous, ce que tu disais, on serait encore tous dans le mieux si on était dans le moins de la langue de tradition. Or, en fait, Il faut renforcer et défendre cette langue de tradition contre, par exemple, l'anglais banalisé des institutions internationales, enfin, l'eurolangue ou des choses comme ça. Et ça, c'est excessivement difficile. Parce que, du coup, si je poursuis cette réflexion, nous n'avons pas à parler anglais, par exemple, à l'université, mais nous devons multiplier les postes de traducteurs. Et donc, de la même manière, dans ton conseil municipal, quels sont les traducteurs ? Parce qu'on le sait très bien, ça a été dit, le leader, je ne sais pas s'il est énergétique ou pas, mais le leader dans les communautés fourriéristes que j'ai étudiées au XIXe siècle aux États-Unis, ça existe. C'est celui qui parle le mieux, en gros. Et c'est vrai que nous avons perdu cette puissance éthique de la parole donnée, qui est quand même à l'origine, ne l'oublions pas, du serment entre le seigneur et le vassal, le serment entre l'apprenti, le compagnon et le maître artisan. Bon, et moi, ça m'est arrivé d'être arrêté par la police en vélo. J'avais brillé un feu en vélo. Il n'y avait personne. Donc deux flics abrutis, enfin deux flics, m'arrêtent et me demandent mes papiers. J'avais pas de papiers. Je dis, je m'appelle Thierry Paco, je donne ma parole. Ils m'ont pas cru. Alors je leur ai dit, vous savez, vous m'étonnez, on sera au Moyen-Âge, vous m'auriez cru. Alors le mec, au Moyen-Âge, j'ai commencé à s'énerver. Donc j'ai dit, j'arrête. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Je me souviens de Lucius Burckhardt, qui est un homme admirable, qui a inventé la promenadologie. Donc c'est pas n'importe qui, celui qui invente la science de la promenade, qui, quand il devient directeur du Bauhaus, invente la commission méchante. Parce qu'il voit que les enseignants, lors de l'Assemblée générale, mentent tous. Ou plutôt tous taisent leurs différends, leurs désaccords. Et donc il leur dit, allez-y, dites que vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes chacun venu dans mon bureau individuellement et vous m'avez dit piquez-pendre de l'autre et là vous n'osez pas lui dire. Alors moi non, on n'a jamais rien dit. Donc il a inventé la commission méchante. Et ça, je crois que c'est une bonne idée. Aussi.